Non, cependant, s'écriait-il, il vaut mieux que la chose se soit passée ainsi. J'ai eu ce que j'ai mérité. Mais il ne s'agit pas de cela. Je voulais dire que ce sont les pauvres filles qui sont trompées dans ces cas-là. Les mères le savent, édifiées en cette matière par les maris. Elles simulent une croyance en la pureté des hommes et agissent cependant comme si elles n'y croyaient pas. Elles connaissent les amorces susceptibles d'attirer les hommes pour elles et pour leurs filles. Nous, les hommes, par la mauvaise volonté d'apprendre, nous l'ignorons. Mais les femmes savent fort bien que l'amour le plus pur, le plus poétique, comme on dit, ne dépend pas des qualités morales de la femme, mais de rapprochement physique, de la manière de se coiffer, de la couleur ou de la coupe des costumes. Demandez à une coquette expérimentée si elle préfère, en présence d'un homme dont elle a entrepris la conquête, être convaincue de mensonges, de cruauté, voire de libertinage, ou bien être présentée à lui dans une robe de mauvais goût et mal taillée. Toutes préféreront la première alternative. Elles savent que nous mentons en parlant de sentiments purs, que leurs corps seuls peuvent nous tenter et que nous pardonnerons plutôt un vice qu'une robe sans goût et de mauvaise coupe. La coquette le fait sans y songer, d'instinct. La jeune fille innocente agit ainsi inconsciemment comme un animal. C'est pour cela qu'on porte ces odieux jerseys, ces tournures, et qu'on étale ses épaules, ses bras et ses seins nus. Les femmes, celles surtout qui ont été instruites par les hommes, savent fort bien que les conversations sur les sujets élevés ne sont que des conversations, et que l'homme n'a en vue que le corps et tout ce qui lui donne du relief. Aussi agissent-elles en conséquence. Ne cherchons pas par quelle suite de circonstances est entrée dans nos cœurs cette habitude devenue une seconde nature. Envisageons la vie des diverses classes de la société dans toute son impudeur. N'est-ce pas la vie d'une maison publique? Vous pensez autrement, je vais vous le prouver, fit-il, prévenant mon objection. D'après vous, les femmes de notre société ont d'autres intérêts que les femmes des maisons publiques? Je prétends que non. Et en voici la preuve. Quand des personnes poursuivent un autre but, vivent d'une autre vie, ces dissemblances doivent paraître à l'extérieur. Il doit être tout différent. Comparez les malheureuses déchues avec les femmes de la plus haute société. Même toilette, même manière. Même parfum, même étalage de bras, d'épaules et de seins, même moulage du derrière, même passion pour les diamants, les bijoux, même plaisir, danse, musique et chant. Autant aux unes qu'aux autres, tous les moyens sont bons pour attirer. Pour parler franchement, la prostituée à terme a le mépris de tous, et la prostituée à vie l'estime générale. C'est bien par des jerseys, des chevaux bouclés, des tournures que moi aussi j'ai été séduit. Je n'étais pas, il est vrai, difficile à prendre au piège, car j'ai été élevé dans des conditions où, tels les concombres en serre, poussent des jeunes gens facilement amoureux. La nourriture abondante n'est-elle pas un excitant pour les oisifs? Les hommes de notre société sont nourris comme des étalons. Cela vous étonne? C'est pourtant ainsi. Je ne l'avais pas vu moi-même jusqu'à ces derniers temps. Maintenant, je vois. Et ce qui me tourmente, c'est précisément que personne ne s'en aperçoit et que tous en émettent des idées aussi stupides que celles exprimées par la dame de tout à l'heure. Dans ma contrée, ce printemps, les paysans travaillaient à la construction d'un chemin de fer. Vous savez de quoi se nourrissent habituellement nos paysans, de pain, de kvass et d'oignons. Cela suffit à un moujik pour travailler convenablement au champ. Au chemin de fer, on lui donne de la kasha et une livre de viande. Mais cette viande, il en donne l'équivalent pendant 16 heures de travail, en poussant une brouette de 30 pounds. La nourriture et le travail se compensent. Nous qui avalons 2 litres de viande, du gibier, du poisson, toutes sortes de boissons et de mets échauffants, où le dépensons-nous? En des excès sensuels. Si alors on ouvre la soupape de sûreté, tout va bien. Si on la ferme, comme je l'ai fermée plus d'une fois, il en résulte une excitation qui, dévoyée par les romans, les vers, la musique, la bonne chère, devient l'amour le plus caractérisé, parfois l'amour platonique même. C'est ainsi que je suis devenu amoureux, comme tout le monde. Rien n'y manquait, délices, attendrissements, poésie. Au fond, cet amour, c'était l'œuvre de la mère et du couturier d'une part, et des bons dîners de l'oisiveté de l'autre. Sans promenades en bateau, sans taille svelte, sans robe bien ajustée, sans sortie en commun, la jeune fille restant chez elle, en peignoir informe, moi-même étant dans des conditions normales d'un homme se nourrissant à la mesure du travail fourni, je ne serais pas tombé amoureux et aucun malheur n'en serait résulté. Or, comme par un fait exprès, tout coïncida. Ma disposition favorable, la robe taillée à merveille, la poétique promenade en bateau. 20 fois l'entreprise avait raté, ici elle réussit. Un vrai piège, vous dis-je. Oh, je ne plaisante pas. Remarquez la manière dont se font les mariages. Qu'est-ce qui devrait être le plus naturel? La jeune fille est nubile, il faut la marier, rien de plus simple. À moins d'être un laidron, elle trouvera des soupirants. Dans l'ancien temps, quand la jeune fille atteignait l'âge voulu, les parents la mariaient. Cela se passait ainsi, et se passe encore ainsi dans le monde entier, chez les Chinois, les Hindous, les musulmans, chez nos paysans, et en somme, dans les 99 centièmes de l'humanité. 1 centième à peine, nous, gens corrompus, avons trouvé mauvaise cette façon de procéder, et nous avons cherché autre chose. Nous avons trouvé quoi ? Les jeunes filles sont exposées comme en foire où les hommes ont entré libres pour faire leur choix. Les jeunes filles sont là et pensent, sans oser le dire, « Prends-moi, chérie, moi non pas elle, vois mes épaules et le reste. » Et nous, hommes, nous passons et repassons, nous les examinons et sommes tous satisfaits de penser « Oh, je sais, je ne me laisserai pas prendre. » Qu'on ne se gare pas assez, pan, et on est pris. Mais, lui dis-je, comment pourrait-il être autrement? Voulez-vous que ce soit les jeunes filles qui fassent la demande en mariage? Est-ce que je sais? Mais s'il est question d'égalité, que l'égalité soit réelle. On a trouvé honteux les marieuses et les médiateurs. Notre système est 1000 fois pire. Là, les droits et les espérances sont égaux. Ici, la femme est une esclave qu'on offre ou un appât dans un piège. Ce qu'on appelle faire son entrée dans le monde n'est simplement qu'une chasse au mari. Dites toute la vérité à une mère ou à sa fille, c'est-à-dire que leur unique préoccupation est la chasse au mari. Vous les offenserez gravement. Cependant, c'est leur seul but. Elles ne peuvent en avoir d'autres. Et ce qu'il y a de plus de terrible, c'est qu'on voit de toutes jeunes filles naïves et innocentes qui font ces choses en ignorant ce qu'elles font. Si au moins cela se faisait franchement, mais non, ce n'est que mensonge. Ah, l'origine des espèces, que c'est intéressant. Ah, que la littérature est attrayante. La peinture est d'un grand intérêt pour Lily. Et vous, irez-vous à l'exposition? Faites-vous des promenades en voiture? Allez-vous au théâtre, au concert? L'enthousiasme de ma Lily pour la musique est vraiment étonnant. Pourquoi n'êtes-vous point dans ces idées? Ah, les parties de bateau! Et toutes n'ont qu'une même pensée. Prends-moi, prends ma Lily. Non, moi, essaie au moins. Oh, hypocrisie au mensonge. Et Poisy-le-chef, après avoir fini de boire son thé, rangea ses tasses. Vous connaissez la domination des femmes, reprit-il, en serrant dans son sac le thé et le sucre. C'est elle qui cause des souffrances à tous. Comment la domination des femmes, répliquai-je, mais les droits sont plutôt l'apanage des hommes. Précisément, fit-il avec vivacité, c'est l'idée que je voulais exprimer. C'est justement ce qui explique ce phénomène extraordinaire. D'une part, leur extrême humiliation, et de l'autre, leur souverain pouvoir. C'est comme pour les Juifs. Ils se vengent par la puissance de leur argent, de l'assujettissement dans lequel on les tient. Vous nous permettez seulement de nous livrer au commerce, entendu. Mais par le commerce, nous deviendrons vos maîtres, disent les Juifs. Vous ne voulez voir en nous qu'un objet à satisfaire vos sens, soit, bah, par les sens, nous vous asservirons, disent les femmes. Ce n'est point la privation du droit de voter ou d'exercer une magistrature qui constitue l'absence des droits de la femme. Ces occupations ne constituent point des droits. L'inégalité de la femme est dans l'interdiction d'aller vers un homme ou de s'en éloigner, d'en choisir un à son gré au lieu d'être choisi. Oh, cela vous choque, n'est-ce pas? Bon, alors privez l'homme des mêmes droits, puisqu'il en jouit et que vous les refusez à la femme. Pour égaliser les chances, elle table sur la sensualité de l'homme. Elle s'en rend maîtresse absolue par les sens, de telle sorte que c'est lui qui paraît choisir, et qu'en réalité, c'est elle qui choisit. Et quand elle possède à fond l'art de séduire, elle abuse et prend un empire terrible sur l'homme. Où voyez-vous donc cette puissance si extraordinaire? Où? Mais partout, dans tout. Visitez les magasins dans les villes importantes. Il y a là des millions entassés, un travail gigantesque, presque incalculable. Y en a-t-il, je vous le demande, dans les 9/10 de ces magasins, la moindre chose pour l'usage des hommes? Tout le luxe de la vie est pour les femmes, qui le recherchent, qui le favorisent. Voyez les ateliers. La plupart fabriquent de vaines parures de femmes. Des millions d'hommes, des générations entières d'ouvriers succombent dans ces travaux de forçats pour des fantaisies de femmes. Comme des reines puissantes, les femmes tiennent dans l'esclavage et le travail les 9/10 de l'humanité, et tout cela parce qu'on leur refuse des droits égaux à ceux de l'homme. Elles se vengent sur nos sens en essayant de nous prendre leur piège. Elles sont arrivées à exercer sur nous une action telle que nous perdons tout calme en leur présence. Dès qu'un homme s'approche d'une femme, le voilà pris par ses charmes et adieu le rayonnement. J'ai toujours éprouvé un sentiment de gêne en voyant une dame ou une jeune fille du monde en toilette de bal. Aujourd'hui, j'en ressens une véritable horreur. J'y vois un danger pour les hommes, quelque chose de contraire à la nature. J'ai toujours envie d'appeler la police et de demander du secours pour faire enlever l'objet dangereux. « Va vous riez, s'emporta-t-il, mais je suis loin de plaisanter. Je suis persuadé qu'un jour viendra, pas si éloigné peut-être, où l'on se demandera avec stupéfaction comment il s'est trouvé une époque où l'on permettait des actions susceptibles de jeter autant de troubles dans le repos de la société que le font les femmes en excitant les sens par la parure de leur corps. Autant de dresser sur les promenades publiques des embûches sous les pieds des promeneurs. Encore serait-ce moins dangereux. Pourquoi, vous demanderai-je, prohibez-vous les jeux de hasard et laissez-vous les femmes paraître à demi-nues en public, bien que ce soit 1000 fois plus périlleux que le jeu? C'est ainsi que je fus pris. J'étais ce qu'on appelle amoureux. Ce n'était pas elle seulement que je considérais comme la perfection incarnée. Moi-même, durant le temps des fiançailles, je me croyais le meilleur des hommes. Il n'est pas un gredin ici-bas qui, en cherchant bien, ne trouve pire que lui, et c'est là une source de plaisir et d'orgueil. C'était aussi mon cas. Je ne l'épousais pas pour l'argent, je n'y tenais pas, à l'encontre de beaucoup de mes connaissances qui se mariaient pour accaparer une dot ou se créer des relations. J'étais riche, elle pauvre. Une autre chose dont je tirais orgueil, c'était que, contrairement à ceux qui, en se mariant, n'abandonnent pas leurs habitudes de polygamie, je m'étais juré de vivre toujours en monogame dès mon mariage. Oui, j'étais un horrible porc, et je me croyais un ange. Nous ne restâmes pas longtemps fiancés. Je ne puis évoquer sans rougir les souvenirs de cette époque. Quel dégoût! Si nous avions éprouvé une affinité d'âme, puisque c'est d'elle qu'il est question et non d'amour sensuel, elle aurait dû se traduire en paroles, en entretien. Rien de semblable. Dans nos tête-à-tête, la conversation était pénible, un vrai travail de Sisyphe. À peine avais-je trouvé ce qu'il fallait dire, à peine l'avais-je dit, que j'étais obligé de me taire et de chercher du nouveau. Les sujets de causerie nous manquaient. Nous avions épuisé tout ce qu'on pouvait dire sur notre avenir, notre installation. Que restait-il? Si nous avions été des animaux, nous n'eussions point ignoré que nous n'avions pas à parler. Cependant, il fallait causer et rien à se dire. La chose qui nous préoccupait n'est pas de celles qui trouvent leur solution dans une conversation. Ajoutez à cela cette déplorable habitude de manger des friandises et des sucreries, puis les préparatifs du mariage, la chambre à coucher, les lits, les vêtements de jour et de nuit, le linge, les objets de toilette. Vous voyez que si l'on se marie d'après les préceptes du domostroy, comme disait le vieux monsieur, les édredons, les lits, la dot sont des détails qui concourent à faire du mariage une chose sacrée. Mais pour nous, qui, dans la proportion de 1 sur 10, ne croyons pas non à cette chose sacrée, qu'on y croit ou non, peu importe, mais aux promesses que nous avons faites, pour nous, dont à peine 1 sur 50 n'est pas disposé à être immédiatement infidèle à sa femme, pour nous, qui n'allons à l'église que pour remplir une condition exigée avant de posséder une certaine femme, tous ces détails n'ont qu'une signification monstrueuse. C'est là un horrible marché. On vend une vierge à un débauché et l'on entoure cette vente de certaines formalités. Je me suis marié ainsi comme nous nous marions tous. Ah, la fameuse lune de miel commença. Quel terme vil, fit-il avec colère. Je me promenais un jour dans une foire de Paris et j'entrais dans une baraque où on exhibait une femme à barbe et un chien d'eau. La femme était un homme en robe décolletée, le chien était recouvert de la peau d'un phoque et nageait dans une baignoire. Fort peu d'attrait à ce spectacle. Quand je sortis, le patron de la baraque me désignant dit au public « Demandez à monsieur s'il vaut la peine d'entrer. Allons, mesdames et messieurs, entrez, entrez. Ça ne coûte 1 franc par personne. » J'étais gêné de contredire cet homme. Il lui avait bien compté sur son sentiment. Il en est de même, sans doute, pour ceux qui connaissent par expérience le dégoût de la lune de miel et qui ne tentent pas de désillusionner les autres. Je n'ai non plus détruit les illusions de personne, mais je ne vois pas pour quel motif je me tairais aujourd'hui. Mon devoir, au contraire, est de tout dire. Non, rien d'agréable dans la lune de miel. C'est une gêne continuelle, une honte, une humeur noire et par-dessus tout un ennui épouvantable. Je ne puis comparer cet état qu'à celle d'un jeune homme qui veut s'habituer à fumer. Il a des envies de vomir, avale sa salive et feint quand même d'éprouver un grand plaisir. Si le tabac doit lui donner des jouissances, c'est plus tard, comme pour le mariage. Avant d'en jouir, les époux doivent d'abord s'habituer à ce vice. Oh, comment vice, dis-je, Bah, vous parlez de la chose la plus naturelle chez l'homme. Chose naturelle, mais pas le moins du monde. Je suis arrivé à la conviction contraire, et j'estime que c'est contre nature. C'est un acte absolument contre nature pour toute jeune fille pure, tout autant que pour un enfant. Ma sœur épousa toute jeune un homme deux fois plus âgé qu'elle et qui avait jusque-là mené une vie déréglée. Je me souviens quel fut notre étonnement quand, dans la nuit de noces, elle le quitta en fuyant, en pâle tremblante, et qu'elle nous dit que pour rien au monde, elle ne pourrait raconter ce qu'il exigeait d'elle. Et vous appelez ça naturel? Manger est naturel. Manger est un plaisir, une fonction agréable, qu'on accomplit dès le début, sans honte. Mais quant à l'autre acte, il n'y a que répugnance, honte et douleur. Non, ce n'est pas naturel. Et une jeune fille pure en a horreur, toujours, j'en ai acquis la conviction. Mais, demandai-je, comment perpétuer l'espèce humaine? C'est ça, le malheur de voir s'éteindre l'espèce humaine, dit-il avec une ironie fielleuse, comme s'attendant à cette objection aussi banale qu'insidieuse. Il poursuivit. Prêcher le malthusianisme pour que les lords anglais puissent mieux s'emplir le ventre, c'est permis. Prêcher la stérilité du mariage pour accroître le plaisir sensuel, c'est permis. Mais avancer à peine qu'il faut s'abstenir de l'enfantement au nom de la morale, mon Dieu, quelle clameur! Parce qu'une dizaine d'êtres humains ou deux voudraient cesser de se conduire en porc, notre espèce court le risque de s'éteindre. Pardon, cette lumière me gêne, veut-on fermer? Fit-il soudain en désignant la lanterne. Je répondis que cela ne m'importait guère, et aussitôt vivement, suivant son habitude, il monta sur la banquette, et voilà la lumière. Quand même, fis-je, si tout le monde adoptait votre idée comme loi, l'espèce humaine cesserait d'exister. Il ne répondit pas tout de suite. Vous demandez comment l'humanité pourrait se perpétuer, fit-il par dire, en se plaçant en face de moi et en posant ses coudes sur ses jambes largement écartées. Est-il bien nécessaire qu'elle se perpétue, l'humanité? Mais autrement, nous n'existerions pas. Et pourquoi faut-il que nous existions? Pourquoi? Pour vivre. Ah, pour vivre! Mais s'il n'y a pas d'autre but, si pour vivre la vie nous est donnée, la vie ne présente aucune utilité. Et s'il en est ainsi, les Schopenhauer, les Hartmann, tous les bouddhistes ont parfaitement raison. Mais si la vie a un but, la vie doit cesser dès que le but est atteint. Et il en est réellement ainsi, dit-il avec une émotion qui exprimait le prix qu'il attachait à son idée. Et il reprit. Jugez-en. Si le but de l'humanité est de réaliser le bonheur, la bonté, l'amour, à votre choix. Si le but de l'humanité est, comme il est dit dans les prophètes, l'union de tous les hommes dans l'amour, la transformation des lances en faucilles, etc., quel est l'obstacle à cette union? Il est dans les passions. Et parmi les passions, la plus forte, la pire, la plus tenace, est la passion charnelle. Quand on aura réprimé les passions, et avec toutes la plus violente, l'amour charnel, la prophétie se réalisera. L'union entre les hommes s'établira et l'humanité, ayant atteint son but, n'aura plus de raison d'exister. Mais tant que l'humanité subsiste, un idéal la dirige. Non, certes, l'idéal des lapins ou des porcs se multiplier et croître, ni celui des singes et des parisiens, la jouissance raffinée des plaisirs charnels, mais l'idéal de bonté, qui ne saurait être réalisé que par l'abstinence et la pureté. C'est l'idéal que les hommes ont toujours visé et visent encore. Il en résulte que l'amour sexuel n'est qu'une soupape de sûreté. Si l'humanité n'a pas atteint le but posé, Elle le doit aux passions et à la plus forte de toutes, la passion sexuelle. Grâce à elle, les générations se succèdent. Si telle génération ne parvient pas à réaliser l'idéal, ce sera la suivante qui le réalisera ou bien une autre. Et elles se succéderont jusqu'au jour où la prophétie s'accomplira enfin, l'union des êtres qui composent l'humanité. C'est fort bien qu'il en soit ainsi. En admettant en effet que Dieu ait créé l'homme afin que celui-ci réalise un certain but, il l'aurait fait ou bien mortel, mais sans passion sexuelle, ou bien immortel. Et que serait-il arrivé dans le premier cas ? Après avoir vécu, tous les hommes seraient morts sans avoir atteint leur but, et Dieu aurait été dans l'obligation de créer d'autres hommes. S'ils avaient été immortels, sans doute auraient-ils réussi après des milliers d'années à réaliser leur but. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on en ferait ? À quoi bon les avoir créés ? Non, vraiment, le mieux est ce qui existe. Mais peut-être êtes-vous évolutionniste, et cette présentation de mes idées vous déplaît-elle ? Alors, en envisageant les choses à votre point de vue, on aboutit encore à la même conclusion. Afin de lutter avec succès contre les autres animaux, les hommes, espèce animale supérieure, doivent se grouper en essaims d'abeilles et non se multiplier à l'infini. Ils doivent, comme les abeilles précisément, élever des êtres asexués, c'est-à-dire se rapprocher de l'abstinence, au lieu d'exciter la luxure sur laquelle repose toute notre organisation sociale. Il se tut un instant. « L'espèce humaine cessera-t-elle d'exister ? » continua-t-il. « Mais qui peut en douter ? C'est aussi certain que la mort elle-même. Toutes les religions prévoient la fin de l'humanité, et d'après les données de la science, elle n'est pas moins inévitable. Quoi d'étonnant dès lors de voir la doctrine morale aboutir aux mêmes conclusions ? » Il se tut encore et prolongea cette fois le silence, tout en fumant sa cigarette, en tirant d'autres de son sac et les plaçant dans son porte-cigarette fort usé. « Je comprends votre idée, dis-je, les Quakers professent quelque chose de semblable. En effet, et ils ont bien raison. La passion sexuelle, si masquée qu'elle soit par la civilité, est un mal terrible, contre lequel il faut lutter et non l'encourager, comme nous le faisons. Les paroles de l'Évangile, « Celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère » s'appliquent non seulement aux femmes des autres, mais encore et surtout à notre propre femme. Dans notre monde, c'est tout le contraire. Si, même en étant célibataire, un homme croit devoir faire effort d'abstinence, il est convaincu que celle-ci n'est plus nécessaire quand il est marié. Le voyage de noces, la solitude dans laquelle on laisse des nouveaux mariés, avec la permission des parents, est-ce autre chose qu'une excitation à la débauche ? Mais la loi morale porte en elle-même la vengeance lorsqu'elle est violée. Ma lune de miel me semblait promettre le bonheur, mais cet espoir fut bientôt déçu. J'y fis pourtant tous mes efforts pour en avoir une. Je fus en proie durant tout ce temps au malaise, à la honte, à l'ennui. Bientôt vinrent la tristesse et les souffrances. C'est, je crois, le troisième ou le quatrième jour que je trouvais ma femme triste. Je lui en demandai la raison en l'embrassant. Pour moi, elle ne pouvait vouloir autre chose. Elle m'écarta d'un geste et fondit en larmes. La raison ? Elle ne la connaissait pas, elle était mal disposée, énervée. La lassitude de ses nerfs lui avait révélé, sans doute, la vérité sur la basse animalité de nos relations, mais elle ne sut pas exprimer ses sentiments. Je la pressai de questions, mais elle me répondit qu'elle était inquiète au sujet de sa mère. Je n'y crus pas. Je me mis à la consoler, mais sans lui parler de sa mère. Je ne comprenais pas que la mère n'était qu'un prétexte et qu'elle avait le cœur gros. Elle se montra froissée de ce que je ne lui parlais pas de sa mère, comme si je ne croyais pas au motif de son chagrin. Elle me dit qu'elle voyait bien que je ne l'aimais pas. Bon, je lui reprochais ses caprices. Elle cessa de pleurer, m'adressant de durs reproches, me traitant d'égoïste et de cruel. Je la regardais. Tout dans ses traits marquait la fureur, une fureur tournée contre moi, de la haine presque. Pourquoi cette attitude inexplicable? Était-ce possible? Ce n'était plus la même femme. J'avais cherché à la calmer, mais je me butais contre une froideur et une amertume telles qu'en un instant je perdis tout mon sang-froid et que notre conversation devint une dispute. L'impression de ce premier dissentiment fut terrible. C'était la révélation de l'abîme qui nous séparait. La satisfaction des désirs des sens avait tué nos illusions. Nous nous retrouvions l'un en face de l'autre dans notre expression vraie, en égoïste essayant d'obtenir le plus de plaisir possible l'un de l'autre, comme deux personnes qui ne voyaient réciproquement dans l'autre qu'une source de jouissance. Ce dissentiment était notre situation constante qui s'était fait jour dès l'apaisement de nos sens. Je ne compris pas tout de suite que cette froideur, cette hostilité était notre état normal, car elle ne tarda pas à s'endormir au réveil de notre volupté. Je crus à une dispute qui, une fois apaisée, ne recommencerait plus. Mais durant cette lune de miel arriva une nouvelle période de satiété, et avec elle, comme nous n'étions plus nécessaires l'un à l'autre, une seconde dispute. Je fus encore plus stupéfait de cette seconde dispute que de la première. La première n'était donc pas un hasard, un malentendu. Mais était-ce forcé, fatal? Je fus d'autant plus étonné que la cause était futile. Ce fut, je crois, une question d'argent. Certes, je n'étais pas avare, encore moins l'aurais-je été pour ma femme. Je me souviens seulement qu'elle prit si mal une de mes observations, qu'elle voulut y voir mon intention bien avouée de la dominer par l'argent, le seul côté d'où je pouvais tenir des droits. C'était stupide, vil et ridicule, si contraire à son caractère et au mien. Je me fâchais, l'accusant d'un manque de tact. Elle me fit des reproches et la dispute recommença. Sur son visage, dans son regard, dans son langage, je revis cette même animosité, cette dureté qui m'avait tant surpris. Je m'étais autrefois disputé avec mon frère, mes amis, mon père même. Jamais je n'avais remarqué entre nous une aussi fielleuse méchanceté. Bientôt, cette haine réciproque se dissimula de nouveau dans les caprices de notre volupté, et je me consolai en me disant que ces querelles étaient des malentendus réparables. Une troisième, une quatrième survinrent. Je dus bien reconnaître que ce n'était pas un simple malentendu, mais une situation fatale permanente, et j'en fus horrifié. Je me demandais pourquoi j'avais, moi, et non pas tout autre, une existence à ce point déplorable avec ma femme. J'ignorais à ce moment qu'il en était de même dans tous les ménages, et que tous pensaient comme moi, que ce malheur n'arrivait qu'à eux, et que tous le cachaient aux autres, comme ils se le dissimulaient à eux-mêmes. Et après avoir ainsi commencé, cette situation empira de jour en jour plus accentuée. Dès le courant des premières semaines, déjà, je sentais dans mon for intérieur dans quel malheur j'étais tombé. Ce n'était point là ce que j'attendais. Je compris que le mariage, loin d'être un bonheur, est un lourd fardeau. Mais, comme tout le monde, je me le cachais à moi-même et aux autres, et sans ce dénouement, je ne me l'avouerais pas encore aujourd'hui. Maintenant, je m'étonne que la vérité de cette situation m'ait échappé si longtemps. J'aurais pu cependant le comprendre à la futilité des motifs qui faisait naître nos disputes. Futilité telle qu'une fois la querelle apaisée, nous ne pouvions en retrouver la cause. Il nous était impossible de recouvrir d'une apparence de raison cette hostilité latente qui existait entre nous. Mais ce qu'il y avait de plus extraordinaire encore, c'est que nous manquions de motifs pour nous réconcilier. Quelquefois, c'était des paroles, des explications, des larmes. D'autres fois, j'y songe avec dégoût. Après les propos les plus amers, c'était des regards, des sourires et des baisers, des enlacements. Horreur ! Mais comment ai-je pu ne pas m'apercevoir de ces hontes ?
Deux voyageurs montèrent et allèrent s'installer à l'extrémité opposée du wagon. Poznichev garda le silence tant que les nouveaux venus s'installèrent, et dès que le calme se rétablit, il reprit son récit sans perdre le fil de ses pensées. « Ce qui est particulièrement odieux, dit-il, c'est notre croyance théorique en l'amour idéal, élevé, tandis qu'en réalité, l'amour est une chose vile et malpropre dont on ne peut parler sans dégoût et sans honte. Et c'est pas sans raison que la nature l'a fait ainsi. Quelle que soit la honte et le dégoût qu'il fasse naître en nous, il faut le prendre tel qu'il est. Or, nous cherchons à nous mettre en tête que cette malpropreté et cette horreur sont une beauté sublime. » Et quels furent les premiers signes de mon amour ? Mon abandon complet à mes instincts bestiaux, sans honte, avec fierté même, sans songer à ce qui pouvait se passer dans l'esprit de ma femme. À la vie physique, à sa vie morale, je n'y pensais pas. Je ne comprenais pas d'où venaient nos froideurs, et pourtant il eût été facile de le voir. C'était là des protestations de la nature humaine contre la bête qui menaçait de s'en rendre maîtresse absolue, pas autre chose. Cette haine, c'était la haine qu'ont l'un pour l'autre deux complices d'un crime prémédité et accompli en commun. N'est-ce donc pas un crime que la continuation de nos relations malpropres quand elle fut enceinte dès le premier mois ? Ah, vous croyez que je fais là une digression du tout ? Cela est nécessaire pour expliquer comment je suis arrivé au meurtre de ma femme. Les imbéciles, ils croient que je l'ai tué le 5 octobre avec mon couteau. Mais c'est bien plus tôt que je l'ai tué, comme tous, oui, tous tuent aujourd'hui leur femme. Comment cela, demandai-je ? Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que précisément, personne ne veut y voir cette chose qui crève les yeux. Que les médecins savent tous et qu'ils taisent au lieu de le dire bien haut. Pourtant la chose est horriblement simple. L'homme et la femme sont créés comme l'animal. Après la conception, la femme devient enceinte, ensuite elle allait. Et durant ces périodes, le rapprochement sexuel est nuisible aussi bien à la femme qu'à l'enfant. D'autre part, le nombre d'hommes égale celui des femmes. Qu'en résulte-t-il ? Un fait bien-être, semble-t-il, et prenait besoin d'être un esprit fort pour en déduire à l'exemple des animaux la nécessité de l'abstinence. Eh bien non, la science, heureuse d'avoir découvert dans le sang je ne sais quel leucocyte, en est toute préoccupée, autant que notre sort net, tandis qu'elle néglige un fait aussi grave. Du moins, je ne l'ai pas entendu en parler. La femme n'a donc que deux issues, ou bien devenir un monstre, détruire en elle sa nature de femme, c'est-à-dire de mère, afin que l'homme puisse en jouir tranquillement, ou bien, ce qui n'est pas une issue, mais une violation flagrante et grossière des lois de la nature qu'on commet dans toutes les familles dites honnêtes, la femme est en même temps enceinte, nourrie ses maîtresses, c'est-à-dire descend au niveau auquel ne s'abaisse nul animal. Ses forces n'y suffisent pas. Aussi avons-nous dans notre monde les hystériques, les névrosés ou ce qu'on appelle les possédés dans le peuple. Et notez que ce n'est pas le cas pour les jeunes filles de la campagne, mais seulement pour les femmes mariées, celles qui vivent avec leur mari. Mais cela se passe ainsi chez nous comme dans le reste de l'Europe. Tous les hospices pour hystériques sont remplis de femmes transgressant les lois de nature. Seulement les possédés de nos campagnes et les clientes de Charcot sont folles complètement, tandis que le monde regorge de demi-folles. Si l'on pensait à l'œuvre immense de la femme pendant qu'elle est enceinte ou qu'elle nourrit, et elle se développe l'être qui doit un jour continuer notre existence et prendre notre place, et par quoi la sainteté de notre œuvre est-elle troublée? Par quoi? C'est une horreur que d'y penser. Et l'on parle de la liberté de la femme et de ses droits. C'est comme si les anthropophages prétendaient qu'en engraissant leurs prisonniers, ils prennent soin exclusivement de leur liberté et de leurs droits. Ces pensées nouvelles pour moi me frappèrent. Mais comment entendre tout ce que vous venez de dire? L'homme dans ces conditions ne pourrait être réellement le mari de sa femme qu'une fois en 2 ans, et l'homme ne peut pas se soustraire à ce besoin, hein, n'est-ce pas? Les prêtres de la science l'ont dit, et vous le croyez. Je voudrais bien que ces estimés magiciens tassent le rôle de ces femmes qu'ils jugent si nécessaires à l'homme. Qu'est-ce qu'ils chanteraient? Répétez sans cesse à un homme que l'eau de vie, le tabac ou l'opium lui sont indispensables. Il finira par le croire. Il en résulte que Dieu n'a pas compris ce qu'il fallait, puisque pour n'avoir pas pris conseil auprès de nos magiciens, il a mal établi le monde. Ah oui, qu'il a eu tort. L'homme a besoin de satisfaire ses sens, ont-ils décidé, et voici que la procréation les gêne. Comment sortir de là? Adressons-nous aux magiciens. Ils trouveront bien quelque chose, ils l'ont déjà trouvé. Quand donc leur jettera-t-on à la face leurs infamies et leurs mensonges? Il n'est que temps. Les hommes en viennent à la folie, au suicide, toujours pour cette même raison. Comment serait-il autrement? Les animaux, qui paraissent se rendre compte que la descendance assure l'espèce, suivent en cela une loi fixe. L'homme seul ne reconnaît pas, ne veut pas reconnaître cette loi. Une idée unique le poursuit toujours, lui, l'homme, le roi de la nature, jouir. Pour lui, l'amour est le chef-d'œuvre de la création, et au nom de cet amour, c'est-à-dire de cette occupation de singe, il tue l'autre moitié du genre humain. De la femme qui devrait l'aider à conduire l'humanité à la justice et au bonheur, il fait, au nom de sa volupté, son ennemi. Et l'obstacle que partout sur son chemin trouve l'humanité, c'est la femme. Pourquoi? Mais toujours pour cette seule et même raison. Eh oui, répéta-t-il à plusieurs reprises en tirant de nouvelles cigarettes et en se mettant à fumer, sans doute pour se calmer un peu. C'est ainsi que j'ai vécu comme un porc, moi aussi, continua-t-il d'une voix plus posée. Ce qu'il y avait de plus fort, c'est que je croyais mener une vie de famille exemplaire, parce que je ne cédais pas aux séductions des autres femmes. Je me croyais moral, et les scènes qui se passaient entre ma femme et moi, je les attribuais exclusivement à son caractère. Naturellement, je me trompais. Elle était comme toutes, comme la majorité. Son éducation avait été conforme aux exigences de notre monde, semblable à celle de toutes les jeunes filles de classe aisée, telle qu'elle doit leur être donnée à toutes. On parle d'une nouvelle éducation féminine, vaine parole. L'éducation de la femme est ce qu'elle doit être, suivant la conception que l'homme se fait de la destination de la femme. Nous savons quelle est cette conception. La femme, le vin, la chanson, comme chantent les poètes. Considérez toute la poésie, toute la peinture, toute la sculpture, les poèmes d'amour, les Vénus et les frinées toutes nues. Partout, la femme apparaît comme instrument de plaisir. Elle le l'est dans les bas-fonds comme dans le grand monde. Et notez cette ruse diabolique. Si encore on disait que la femme est un plaisir, un morceau de choix, et que du moins on l'entendait ainsi. Eh bien non. Primitivement, messieurs les chevaliers, assuraient qu'ils adoraient la femme. Aujourd'hui, ils affirment qu'ils respectent la femme. Les uns lui cèdent leur place, ramassent son mouchoir, et D'autres lui reconnaissent le droit d'occuper toutes les fonctions administratives, de participer au gouvernement, etc. Mais l'idée qu'on se fait de la femme demeure la même. Instrument de plaisir. Et elle le sait. C'est de l'esclavage. Car l'esclavage n'est rien d'autre que l'utilisation du travail du grand nombre par quelques-uns. Aussi, pour faire disparaître l'esclavage, il faut que les hommes considèrent l'utilisation du travail forcé des autres comme un péché ou comme une honte. En réalité, on a aboli la forme extérieure de l'esclavage, on a supprimé la vente et l'achat flagrant des esclaves, et on s'imagine que l'esclavage n'existe plus, alors qu'il est plus que jamais en vigueur, puisque les hommes continuent à jouir du travail des autres et estiment cela parfaitement juste. Et l'institution étant considérée comme juste, il se trouve toujours des hommes qui, plus forts ou plus rusés, savent en tirer profit. Il en est de même de l'émancipation de la femme. L'esclavage de la femme est uniquement dans le désir des hommes d'en faire un instrument de jouissance dès qu'ils estiment parfaitement justifié. On émancipe la femme, on lui octroie des droits égaux à ceux de l'homme, mais on l'envisage toujours comme un moyen de plaisir. Elle est élevée dans cette idée depuis l'enfance, et l'opinion générale l'y confirme. C'est ainsi qu'elle continue à demeurer une esclave soumise et dépravée, tandis que l'homme reste l'éternel maître débauché. On émancipe la femme en lui facilitant l'accès à l'université, au parlement, mais on continue à la traiter en objet de volupté. Apprenez-lui, comme on le fait, à croire qu'elle l'est, et elle demeurera toujours un être inférieur. Ou bien, par les soins de misérables médecins, elle empêchera la conception, sera une prostituée, descendue non pas au degré de l'animal, mais à l'état d'objet. Ou bien, elle sera ce qu'elle est dans la plupart des cas, une hystérique, une malheureuse, inapte à tout progrès moral. Toutes les hautes études des femmes ne sauraient modifier cette situation. Seule la modification de l'idée que l'homme se fait de la femme et de celle-ci sur elle-même pourrait y apporter un changement. La situation changera quand la femme verra dans son état de virginité un état supérieur. Tant que cela n'est pas, l'idéal de toute jeune fille, quelle que soit son instruction, sera de charmer le plus grand nombre possible de mâles afin de pouvoir mieux choisir parmi eux. Le fait que l'une est plus forte en mathématiques et que l'autre sait mieux jouer de la harpe ne change rien à la situation. La femme trouve son plus grand bonheur quand elle réussit à séduire un homme. C'est là son but suprême. Ce fut et ce sera toujours ainsi. Il en est ainsi pour les jeunes filles et pour les femmes mariées. Chez les premières, c'est nécessaire pour pouvoir choisir, et chez les secondes, c'est un moyen de dominer le mari. Une seule chose vient interrompre cette façon de vivre, ce sont les enfants. À la condition que la femme soit bien portante et les nourrisse elle-même. Mais ici encore, reparaissent les médecins. Ma femme, qui voulait nourrir elle-même ses enfants, tomba malade à la naissance du premier, mais elle a pu nourrir les cinq autres. Les médecins la déshabillèrent cyniquement, la tâtèrent partout, ce pourquoi je dus leur adresser de grands remerciements et les payer grassement, et ils déclarèrent qu'elle ne pouvait nourrir. Elle se trouva ainsi privée, dès le début, de la seule diversion possible à sa coquetterie. Nous prîmes une nourrice, c'est-à-dire que nous exploitâmes la pauvreté et le besoin, l'ignorance d'une femme. Nous la volâmes à son propre enfant au profit d'une autre et nous la parâmes d'un kokochnik, un galon d'argent. Mais il ne s'agit pas de cela. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette liberté momentanée réveilla chez ma femme, en lui donnant une force nouvelle, la coquetterie féminine un peu endormie pendant la période qui avait précédé. Alors, naquit en moi une jalousie telle que jamais auparavant je n'en avais soupçonné l'existence. Dieu, que de souffrance! D'ailleurs, Ce sentiment est général à tous les maris qui vivent comme je vivais avec ma femme, c'est-à-dire immoralement. Durant tout le temps de ma vie conjugale, je ne cessais d'être en proie à la jalousie et j'en souffris cruellement. Il y eut des périodes où mes souffrances furent plus intenses. La première remonte à la naissance de notre premier enfant. Quand nous eûmes pris une nourrice, les médecins ayant défendu à ma femme de le nourrir elle-même, je fus particulièrement jaloux, d'abord en raison de l'inquiétude de mère éprouvée par ma femme, à la suite du dérangement apporté à la régularité de sa vie. Puis, ma jalousie provint surtout de ce que je vis avec quelle facilité ma femme renonçait à ses devoirs de mère, ce qui me faisait conclure, d'instinct et de raison aussi, à la facilité qu'elle aurait à abandonner ses devoirs d'épouse, d'autant plus que sa santé était excellente et que, malgré la défense de messieurs les docteurs, elle allaita avec le plus grand succès les enfants puis nés. Vous ne me paraissez pas beaucoup aimer les médecins, lui dis-je, ayant remarqué l'expression irritée de sa physionomie et l'altération de sa voix toutes les fois qu'il en parlait. « Mais il n'est pas question ici d'aimer ou de ne pas aimer. Ils ont brisé mon existence comme ils en ont brisé des milliers d'autres. Je ne puis pas ne pas chercher un lieu commun entre la cause et l'effet. J'admets qu'ils veuillent, comme les avocats, comme d'autres, gagner de l'argent. » Je leur abandonnerai de grand cœur la moitié de ma fortune. Et je suis certain que tout homme qui se rendrait compte de leur action agirait de même. S'ils consentaient seulement à se désintéresser de notre vie de famille et ne pas toujours se mêler des choses où ils n'ont que faire. Je n'ai pas consulté la statistique, mais je connais personnellement des dizaines de cas, il y en a d'innombrables, où tantôt ils ont tué l'enfant dans le sein de la mère en prétendant qu'elle ne pouvait accoucher, tantôt la mère, sous le prétexte, vint d'une opération. On ne tient pas compte de ces meurtres, de même qu'on n'a pas dénombré ceux de l'Inquisition dans la croyance qu'ils étaient utiles à l'humanité. Les crimes des médecins sont incalculables. Encore ne sont-ils rien auprès de la corruption morale qu'engendre le matérialisme qu'il propage dans le monde, particulièrement à l'aide de la femme. Je ne m'arrêterai même pas à ce fait que, en suivant leurs conseils, nous en arriverions inévitablement, de par la force de la contagion, non à l'union mais à la désunion complète. D'après leurs principes, nous devrions passer notre temps dans le repos et l'isolement, à nous servir d'acide phénique. Il est vrai qu'aujourd'hui, qui trouvent qu'il ne vaut plus rien. Là n'est pas le pis. Leur poison le plus violent est la corruption dans laquelle ils plongent l'humanité, les femmes tout particulièrement. On ne peut plus dire ni à soi-même ni aux autres de nos jours « Tu mènes une vie déplorable, corrige-toi ». Non, quand on mène une mauvaise vie, c'est la faute d'une maladie nerveuse ou de quelque chose d'analogue. Alors on va consulter les docteurs. Ils vous prescrivent des remèdes que le pharmacien fournit. On devient plus malade. Vite au docteur, au pharmacien. Charmante invention, en vérité. Bon, pour revenir au sujet qui nous occupait, je vous dirais que ma femme a fort bien nourri nos enfants, que ceux-ci ont beaucoup servi à apaiser les souffrances que m'occasionnait ma jalousie. Sans eux, la catastrophe serait survenue plus tôt. Les enfants nous ont sauvés pour quelque temps. Pendant 8 ans, ma femme a mis au monde 5 enfants qu'elle allaita elle-même. Et où sont actuellement vos enfants? Demandai-je. Les enfants? Fit-il d'un air effrayé. Peut-être vous est-il pénible d'en parler. Non, pas précisément. Ma belle-sœur et son frère se sont chargés des enfants. Je leur ai abandonné ma fortune, et cependant ils ne m'ont pas rendu mes enfants. Comme je passe pour être fou, on a refusé la garde. Je viens de les voir, mais on ne me les rendra pas. C'est malheureux, car je les aurais élevés de manière à ne pas ressembler à leurs parents. Or, il paraît qu'ils doivent leur ressembler. Enfin, rien à faire. On ne me les confiera pas. Au reste, je ne suis pas certain d'être capable de les élever. Je suis une loque, je ne suis plus bon à rien. Mais je sais quelque chose que d'autres, que tous ne sauront pas de sitôt. Oui, mes enfants vivent, grandissent et deviendront aussi sauvages que ceux qui les entourent. Je les ai visités à 3 reprises, mais que puis-je pour eux? Rien. Je m'en vais maintenant chez moi dans le midi. J'y possède une maisonnette et un jardinet. Oui, du temps se passera avant que les hommes sachent ce que je sais. On apprend vite quelle quantité de fer et quels autres métaux contiennent le soleil et les étoiles, mais apprendre ce qui dénonce notre vilenie, c'est bien autrement difficile. Vous, au moins, vous écoutez, et je vous en suis reconnaissant.